Pane Masko, dojde.
Et à tous et bienvenue dans cette toute première émission de Clap and Chat. Je suis Ninon et je vous propose de nous retrouver le mercredi à 19h tous les 15 jours sur Radio G 101.5 FM. On va débriefer ensemble les dernières sorties cinéma. C'est parce qu'on n'est jamais mieux qu'avec ses amis pour partager son avis. J'ai aujourd'hui avec moi en studio Laure et Kevin.
Salut Ninon.
Salut Ninon, salut Kevin.
Je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui autour de la table pour cette toute première émission. Merci d'être là et de vous lancer dans cette grande aventure avec moi. Au programme aujourd'hui, on va parler du grand final d'une saga So English, Downton Abbey 3, avec l'accent qui va très très bien. On parlera aussi du nouveau film de Yann Gozlan, Dalloway, aussi avec un accent que je ne maîtrise absolument pas. Et enfin, on se fera un petit point actualité locale. On parlera de Persepolis qui a été reprogrammé il y a quelques jours pour le festival de l'animé au Pathé Angers. Et sans plus attendre, je déclare cette première émission de Clap and Chat ouverte. Moteur.
Action. Clap and Chat sur Radio G.
101.5 FM.
Et pour commencer cette émission, on va parler du grand final de cette saga culte Downton Abbey. On vous laisse écouter la bande-annonce et juste après, Kevin, qui est un grand fan de la saga, nous fera une petite présentation.
Il m'est difficile d'accepter de devoir partir. Votre amitié n'a jamais autant compté pour nous tous. Mais l'avenir de Downton Abbey est aujourd'hui entre les mains de Marie.
Tu vas faire sensation. Lady Marie ne peut rester davantage parmi nous. Elle est divorcée.
Je suis navrée. J'ai eu tort de venir.
Voilà une soirée qu'il faudra marquer d'une pierre blanche.
Les faits sont là. À lui d'en assumer les conséquences.
Et en ce qui concerne Downton, vous ne voulez pas d'elle aux commandes.
Le monde a changé. Notre façon de parler, de nous habiller, de nous comporter avec les autres.
Vous avez bien le droit de prendre un peu de bon temps.
Comme d'habitude. Bienvenue à Downton, mon cher frère.
Cora.
Les nouvelles ne sont pas bonnes, n'est-ce pas?
Comment le sais-tu?
Je te connais depuis que tu es née.
Harold a vraiment déçu toutes nos attentes.
Ne voyez-vous pas ce que cela implique pour Downton?
On se retourne sur le passé et l'on songe aux changements auxquels on a assisté.
Tu es la fille que j'ai jamais eue.
Je vais chérir ces mots.
Les familles comme la nôtre doivent évoluer pour survivre. Votre soutien aujourd'hui est bien plus cher à mon cœur que je ne saurais le dire.
Si maman était encore en vie, que ferait-elle ?
Longue vie à Downton Abbey.
Ainsi soit-il.
Alors Kevin, est-ce que tu peux rapidement nous rappeler un petit peu cette saga, nous la présenter un petit peu, et qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier opus, Downton Abbey 3, le grand final ?
Avec très grand plaisir, Ninon. Alors, Downton Abbey, c'est avant tout une série télévisée britannique en 6 saisons, dont la diffusion initiale s'est étalée de 2010 à 2015. Et la série relate la vie d'une famille aristocratique anglaise, les Crawley, et de leurs domestiques, entre 1912 et 1925. Et ils vivent donc dans le château de Downton. On suivit après ces 6 saisons 3 films, racontant eux la fin de la décennie, sortis respectivement en 2019, 2022 et donc 2025, avec le tout récent Downton Abbey, le grand final, actuellement en salle. Et ce troisième opus de Downton Abbey porte très bien son nom, en apportant la touche finale à cet univers que j'ai, je l'avoue, dévoré effectivement pendant les vacances cet été.
Il m'y a mise du coup.
On suit en fait dans ce dernier opus la famille Crawley finalement dans une nouvelle année pleine de rebondissements et de changements et comme on l'a entendu dans la bande-annonce, auquel l'aristocratie anglaise doit se plier pour rester à flot. Vous l'aurez compris avec Downton Abbey, mieux vaut aimer le tweed, la pluie et le poche-drama britannique, d'autant que ce dernier film se situe en 1930, donc juste après le crash boursier de 1929 aux États-Unis, qui a fortement impacté les Crawley, comme on a pu l'entendre également dans la bande-annonce. Et c'est globalement ce qui m'a plu avec la série et avec le film en salle aujourd'hui, comment sur fond historique ces personnages font vivre au quotidien sans trop en faire, sans aller dans des dramas sortis de nulle part. C'est vraiment ça qui est très intéressant et on retrouve d'ailleurs un gimmick dans la série et dans les films que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que beaucoup de scènes sont introduites par un personnage marchant ou s'affairant à quelque chose, ce qui n'est pas souvent le cas. Et du coup, on entre tout de suite dans le quotidien. Il n'y a pas de préambule, il n'y a pas de mise en scène, c'est ok, il y a ce personnage qui marche et il y va. Donc si parfois certains passages peuvent paraître un peu longuets malgré tout, on reste dans le Yorkshire des années 20, donc on ne va pas aller trop vite non plus, le tout est franchement agréable. Et pour vous donner peut-être une dernière bonne raison de vous intéresser à Downton Abbey, si c'était pas déjà le cas.
petite Comment info. Ça, c'était pas déjà le cas. C'est pas possible.
Je sais, je suis scandalisé, mais que veux-tu. petite info casting qui vaut le détour. L'un des personnages récurrents de la série et des films, et sans doute mon personnage préféré, porte le nom de Lady Violet et est interprété par nul autre que Dame Maggie Smith, ou professeur McGonagall pour les Potterheads qui nous écoutent, à qui le rôle de la matriarche sarcastique et pince sans rire sied à merveille.
Elle est exceptionnelle dans la série.
Elle est incroyable. Les dialogues sont vraiment fabuleux. C'est écrit, c'est très ciselé. Elle est très, très, ouais, sarcastique, pince sans rire.
Ce piquant anglais là qu'elle apporte est très, très fort et je pense qu'il est un peu emblématique de la série et de Maggie Smith.
C'est ça.
Complètement. Il est indispensable à la série, très clairement. Il apporte vraiment quelque chose de très, très fort.
Exactement. C'est vraiment un des piliers, je pense, ce personnage de la série et des films.
Et alors, ce dernier film, plus précisément, qu'est-ce qu'on en a pensé, Kevin ?
Eh ben, on a pensé qu'il finit effectivement très bien l'univers. On sent que, malgré tout, on a vu du coup la famille des années 1912 aux années 1930. Heureusement que c'est la fin, j'ai envie de dire, malgré tout. Ça se finit très bien. Mais il faudrait pas aller plus loin. Parce qu'on commence à avoir des redondances dans ce qui se passe, dans le type de problématiques que la famille peut rencontrer. Des problématiques d'argent, des problématiques d'héritage, etc. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, ce troisième opus clôture très bien la série, clôture très bien l'univers d'Anton Abbé. Je vous conseille fortement de vous intéresser à la série et d'aller voir le film au cinéma. Mais on sera content de ne pas forcément revoir autre chose sur Downton Abbey qui risquerait de ternir un petit peu cette image.
Alors, qu'est-ce que tu en as pensé?
Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'étais très contente de revoir ce film, de revoir tous les personnages une dernière fois. Mais je pense que plus loin, ça aurait été peut-être trop. Donc là, je pense que ça s'arrête vraiment au bon moment.
C'est marrant, je suis pas d'accord.
C'est vrai.
Tout savoir jusqu'en 2022 sur les Crawley.
vas-y, je t'en prie.
Non, pas de souci. T'as parlé tout à l'heure. Enfin, vous avez parlé de Maggie Smith très clairement, même si elle est pas présente dans ce film parce qu'elle n'est plus là. Mon Dieu. Mais vraiment, il y a beaucoup de rappels faits sur elle et la fin du film avec un hommage. Je pense que ça nous a tous les trois tiré un peu les larmes et c'était un plaisir d'avoir ce petit clin d'œil là. En fait, c'était important, je pense, de la laisser intégrer à l'histoire et au film et à la famille.
Bah, et puis elle a une aura sur la famille qui est quand même là. On l'entend dans la bande-annonce. Qu'est-ce qu'aurait fait grand-mère, quoi?
Bien sûr.
Alors en anglais c'est pas ça, mais voilà, qu'est-ce qu'aurait fait grand-mère?
Donc, you are not bilingue.
I'm un tout petit peu. Non, je suis pas très 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 bonne en anglais. Oui, moi je suis pas d'accord. Du coup, je reviens sur ce que je disais. je veux pas spoiler, mais du coup, on passe à une autre étape de la vie des Crowley. Et moi, j'ai envie de savoir cette autre étape. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre et du coup, je suis hyper curieuse.
Je comprends ce que tu veux dire. Après, est-ce que ce serait pas trop étiré? Ça peut être intéressant d'étudier le sujet sur une autre famille, une autre histoire. J'aurais eu peur, moi, d'avoir cette sensation de trop étiré, mais je comprends la curiosité que tu as.
Oui, après, j'avoue que là, le film, pour le coup, il fait vraiment fin et c'est une belle fin et tout le monde a bien clôturé son arc et du coup, ça marche très très bien. C'est un très bon film de fin de saga, pour le coup.
Ouais, ça, c'est un peu très très beau à la fin quand même. Alors, c'est très joli, je sais pas si j'aurais apprécié que le film termine différemment, mais pour le coup, ça m'a fait drôle que tout est bien qui finit bien. Voilà, tout le monde va très très bien dans le film. Voilà, c'est un peu rose bonbon à la fin quand même.
Ouais, les happy endings, un peu
ouais,
trop happy endings.
C'est ça.
Ouais,
c'est
mais
ça
va bien avec. Moi, je trouve que ça va bien avec l'humeur et le mood de la saga. Donc pour moi.
Complètement.
Pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus.
Tout à fait.
Bon, on est assez d'accord, ça va. Hormis ce petit point où j'en aurais voulu plus parce que j'en veux toujours plus. Eh bien, après cette partie de Downton Abbey, on va parler d'un autre film. On va parler de Dalloway. Alors, Dalloway, le nouveau film de Yann Gozlan. Ces dernières années, Yann Gozlan, on en a beaucoup entendu parler pour Boîte Noire, qui est sorti en 2020 avec Pierre Niney, notamment. Cette année, il revient sur grand écran avec Dalloway, qui est un trailer dramatique sur fond de IA, avec au casting pas moins que Cécile de France et Mylène Farmer dans le rôle de l'IA. Enfin, dans la voix, du coup. Elle prête sa voix à l'IA. Avant de nous partager nos impressions sur Dalloway, j'en profite pour dire que ce film fait partie du festival Angevin des Capucines du cinéma français. Alors, les Capucines du cinéma français, c'est quoi? C'est un festival qui a été créé il y a 5 ans et qui est 100% Angevin, c'est-à-dire qu'il est créé par deux Angevines, Caroline et Sarah. C'est elles qui le gèrent à L2. Il se déroule à Angers, le jury est totalement Angevin. Et c'est d'ailleurs la particularité de ce festival, c'est que le jury est composé de gens qui sont non professionnels du cinéma français, dont Kevin et moi, qui sommes là depuis la première année. Et Laure qui nous a rejoint il y a 2 ou 3 ans, c'est ta 3e édition je crois Laure.
Exactement, c'est la 3e édition. Je suis la petite jeune de la bande.
Oui, enfin après nous pour le coup on est les gros vieux, donc bon, je suis pas sûre que ce soit le mieux. Ce festival du coup commence tous les ans en juin, donc ça a commencé il y a quelques mois au Pathé Angers et il se déroule jusqu'en novembre. On va en parler assez régulièrement dans l'émission parce que les films qui sont sélectionnés sont quand même assez cool. Et chaque mois c'est 6 films qui sont sélectionnés puis notés par les membres du jury. En septembre, là, le mois qui vient de terminer, du coup, on a eu Adieu Jean-Pat de Cécilia Rouault, Fils de Carlos Abascal Pierrot, Partir un jour de Amélie Bonin, Regarde de Emmanuel Poulain-Arnaud, Dalloway de Yann Gozlan, et enfin Jeune mère de Jean-Pierre et Luc Dardenne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Dalloway. Si vous voulez plus d'informations sur le Festival du Capucine des Cinémas, n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet. Et on s'intéresse du coup à cette histoire de Clarissa qui est une autrice en perte de vitesse et qui décide de rentrer en résidence dans une fondation à la pointe de la technologie avec des logements dans lesquels ils ont tous un IA personnel et au fur et à mesure elle va se retrouver à avoir à nouveau petit à petit de l'inspiration et aussi commencer à se méfier de son IA. Alors Dalloway, qu'est-ce qu'on en a pensé autour de cette table, Laure? Est-ce que tu peux commencer à nous dire, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Alors, je suis un peu partagée. Alors c'est drôle, moi je dis Dalloway.
Ah, je sais pas. Dalloway.
Bon, vous direz le voir et vous nous direz ce que vous en pensez. Je suis partagée parce que, pour le coup, la bande-annonce m'a beaucoup intriguée, m'a vraiment donné envie. Le casting très très fort aussi. Et pourtant, c'est pas le type de film que moi je regarde habituellement. Donc vraiment, c'est qu'il y a quelque chose qui m'attire. Et puis finalement, au fur et à mesure du film, j'ai trouvé que le film n'allait pas complètement au bout de ses possibilités. Je trouve qu'il y a beaucoup de temps pour l'installation de l'histoire, de l'ambiance générale. Alors l'ambiance, elle est plutôt bien mise en place, je trouve. La bande sonore est très impactante et joue un gros rôle là-dessus. Mais après, ça va pas au bout des choses. Je trouve que le film ouvre des portes sans forcément aller plus loin. Il y a des perspectives qui sont proposées, mais ça s'arrête là, ça se nourrit pas en fait. Même un petit peu, il y a un côté complotiste par rapport à l'IA, qui est tout à fait logique, hein, c'est normal que ça arrive là, mais je trouve qu'on creuse pas, enfin le scénario creuse pas assez dans ce côté-là.
Vous voyez pas, mais on acquiesce autour de la table.
C'est ça, il y a que des oui. Et pour le coup, moi ça m'a sincèrement déçue, parce que j'ai l'impression qu'on tire on attend la suite, et puis pas grand-chose finalement. Donc ça c'est ce que j'ai un petit peu moins aimé, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, je vous dirai après ce que j'ai aimé dans le film.
Je partage ton avis, Laure, surtout que effectivement on a donc Yann Gozlan qui est connu pour avoir réalisé notamment Boîte Noire et Vision que j'avais beaucoup aimé. On a Cécile de France et Mylène Farmer qui forment un duo qui me donne vraiment très envie. On a une bande-annonce qui elle aussi est assez intéressante et qui m'a vraiment donné envie de voir ce film et j'avais vraiment beaucoup d'attentes. Et au final, ça retombe un petit peu parce que il va pas au bout des choses. Il lance une petite info, un petit truc.
C'est ça.
Et en fait, il prend pas position. Et il en sort rien en fait de ce qu'il nous propose. Comme s'il connaissait pas vraiment le sujet. Il voulait parler de quelque chose, mais sans maîtriser le sujet, c'est difficile justement d'aller apporter son avis et de donner une vision à son film. Et je trouve que c'est un peu ce qui manque au film, qui malgré tout est très beau, avec effectivement une bande son qui est vraiment bien travaillée, avec la voix de Mylène Farmer, etc. Donc il y a plein de choses très positives dans la conception du film, mais au final le scénario lui pêche un petit peu sur ce côté-là.
Oui, c'est ça. Je me permets de rebondir une petite anecdote. J'ai vu récemment une interview de Cécile de France qui parlait justement de l'enregistrement de la voix de Mylène Farmer, parce qu'on est très clairement tous les trois d'accord, la voix est très impactante, celle qui fait Dalloway, c'est dans le film Dalloway, c'est vraiment super. Et en fait, elle expliquait que la voix de Mylène Farmer a été enregistrée en amont en studio, donc elles étaient toutes les deux pour se donner la réplique, et donc elles ont créé un lien humain en fait finalement. Et qu'au moment du tournage, Cécile de France a eu besoin de pour rentrer dans le personnage, de se détacher en fait de ce lien humain pour pouvoir réellement échanger avec une IA, quelque chose de non personnifié, non humain. Et pour le coup, j'ai trouvé ça intéressant à entendre, parce que en tant que spectatrice lambda, c'est quelque chose que j'avais absolument pas en tête, en fait, que j'avais pas projeté. Et j'aime bien voir ce derrière un petit peu la caméra,
les coulisses.
Exactement, c'est ça.
Mais c'est très intéressant. Moi, j'adore voir les making-of pour ce genre de choses. Là, en l'occurrence, oui, la voix est tellement forte. Et puis, il y a deux personnages principaux, deux femmes d'ailleurs. Je sais que Laure, tu adores cette idée.
Oui, c'est hyper important.
Je partage totalement. Deux femmes en personnages principaux, dont cette IA qui est incroyable. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est l'image. Moi, j'ai trouvé que l'esthétique de ce film était très, très beau. Mm-hmm. On est futuriste, mais pas tant que ça, genre 10, 20 ans, peut-être 30 max.
Oui, ça reste très proche de nous. Et je pense que, pardon, excuse-moi, je te coupe la parole, mais je pense que ça permet aux spectateurs, aux spectatrices de vraiment se projeter. On n'est pas sur quelque chose de complètement surnaturel.
Ça reste très ancré dans ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Hein. Il y a évolué, certes. Il y a des technologies qui ont évolué, mais il y a des trucs qu'on retrouve aussi aujourd'hui. Donc ça permet d'être très ancré. Et puis aussi je vous rejoins sur le fait que Yann Gozlan, on dirait qu'il ne finit pas, alors qu'il y a tellement de choses. Moi, j'ai vachement pris plaisir en fait à voir ce film. Le truc, c'est que j'ai adoré, et la tension qu'on retrouve dans l'abondance, elle est tout le long du film.
Ouais.
Mais quand il y a une tension comme ça qui est si bien gérée tout le long du film, j'ai envie qu'à la fin j'ai un gros truc. Et à la fin, j'ai pas de gros truc, j'ai des questions. Et ça m'a dérangé.
Je vois Kevin qui acquiesce aussi. Je pense qu'on est tout à fait d'accord. Quand tu parles d'une tension permanente, c'est-à-dire que ça nous tire. Et rien, quoi. C'est comme si on montait une montagne russe et à la fin, pouf, en fait, on descend pas.
C'est exactement ça. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Vraiment, sans spoiler, il y a une ellipse à un moment dans le film et je trouve que cette ellipse, elle aurait dû être développée au lieu d'être squeezée.
Ouais.
Et c'est ça qui aurait été intéressant.
Oui. Je rajoute quelque chose parce qu'on a parlé de Mylène Farmer et de Cécile de France. Mais il y a un troisième personnage secondaire, entre guillemets, qui est aussi féminin, qui est celui d'Anna Mouglalis, qui joue du coup la directrice de cette résidence d'artistes, une directrice qui est quand même assez particulière. Et je trouve que le timbre de voix d'Anna Mouglalis s'y est parfaitement au personnage. Et du coup, instaure ce climat de, on va dire, suspicion, de presque un peu danger, finalement. Je trouve qu'elle est très, très bonne dans le rôle aussi, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier.
Le casting a été très, très bon, effectivement, là-dessus, parce qu'elle incarne vraiment cette directrice avec, effectivement, sa voix si particulière. Donc, c'est vraiment une très belle réussite de casting.
Très, très fort. Ouais. Du coup, c'est assez, je trouve, frustrant d'avoir un film qui a tellement de bonnes choses d'un côté et qui fait un peu flop de l'autre.
Ouais, c'est ça.
Moi, pour le coup, je ne connaissais pas le travail du réalisateur. J'avais pas vu ces deux autres films. Je ne sais pas si c'était le cas ou pas, ou si c'était...
Alors, pour le coup, Boîte Noire était totalement bien ficelée, bien terminée, pas de questions et tout. C'était vraiment... Là, Boîte Noire, on était sur un film où crash d'avion et l'idée, c'est de retrouver la boîte noire. Un expert d'audition, je ne sais pas trop comment on dit... Qui analysait les boîtes noires et tout et qui se replongeait. En plus, moi, j'ai trouvé que dans Boîte Noire et dans Vision, ce qu'il n'y avait pas et ce que j'attendais du coup de Yann Gozlan, c'était un vrai truc sensoriel. Il y avait un vrai travail sur le son dans ces deux dans les deux derniers films, puisque je ne sais pas si on en a fait avant, que je trouvais très, très intéressant et qui, là, presque m'a manqué.
Dans Dalloway?
Non, juste, enfin, ça m'a manqué dans Dalloway par rapport à ces deux précédents films.
Alors bon, pour le coup, j'ai pas vu les autres, mais j'ai trouvé que le travail de son était pas mal. Alors, en effet, ça doit être peut-être plus poussé dans les autres ou pas fait de la même manière.
Oui, c'était vraiment très sensoriel, très charnel presque.
D'accord. Oui, Dalloway, c'est plutôt au niveau de la musique qu'on va le ressentir.
Je partage ton avis effectivement, et ce qui est surprenant finalement, puisque visuellement par contre on retrouve bien la patte de Yann Gosselin, puisque Boîte Noire et Vision c'était des choses aussi très très esthétiques comme ça, avec vraiment quelque chose de très travaillé dans le futur ou dans le présent pour Boîte Noire, mais vraiment avec une image qui était vraiment forte et facilement reconnaissable. Et donc je me suis dit son plus image en théorie ça va très très bien fonctionner. En pratique,
après c'est pas un mauvais film. Hein.
Non,
il y a plein de choses qui sont intéressantes.
C'est un bon film. Mais...
Avis partagé, avis mitigé.
C'est ça. Dalloway, c'est actuellement au cinéma le dernier film de Yann Gosselin. Et autour de la table, on aime et on est plus ou moins mitigé. Mais faites-vous votre propre avis, allez le voir parce qu'il est quand même très très intéressant sur beaucoup de points. Avant de terminer cette émission, on voulait parler d'un autre festival qui est en ce moment au Pathé, qui est le festival de l'animé. C'est jusqu'au 22 octobre, le Pathé ressort des classiques de l'animé de production très variées. On a des films qui sont japonais, coréens, mais on a aussi des films états-uniens, des films français et belges. Donc plein de choses. On a déjà fait une interview des organisatrices Émilie et Susanna. Elle est à retrouver sur la page de Clap & Chaps sur radio-g.fr si vous ne l'avez pas encore écoutée. Avec Laure, ce festival, il nous a permis de voir un film qu'on avait loupé à sa sortie, qui est Persepolis. Laure, est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu et nous donner ton avis sur ce film, s'il te plaît?
Oui, avec plaisir. Je suis très contente d'avoir pu découvrir ce film grâce au Festival de l'Animé. Moi, j'étais passée à côté. Juste pour rappel, il est sorti en 2007. Donc, c'est un film d'animation qui est inspiré de la BD autobiographique de Marjane Satrapi. Le film retrace une partie de vie de Marjane, de ses 8 ans à Téhéran, donc sous le régime du Shah d'Iran, suivi de la révolution et l'instauration de la République islamique, puis son exil à Vienne à l'âge de l'adolescence, jusqu'à sa vie d'adulte avec un retour en Iran et un départ pour la France. Moi, j'avais pas lu d'ABD, je connaissais pas vraiment le synopsis, et pour être sincère, je connais pas beaucoup l'évolution politique de l'Iran, juste dans ses grandes lignes. Mais je trouve que dans le film, on se projette pas mal sur l'impact qu'il a sur la population, les conséquences sur les droits humains, évidemment sur les droits des femmes. Et puis, à plus petite échelle, le film donne à voir l'impact sur la famille. En tant que spectatrice, je me suis tout à fait projetée sur les ressentis de chacun des personnages. C'est assez évident. Pour moi, le film Persepolis intègre bien les spectateurs, les spectatrices dans l'émotion. Et je crois que ça, c'est un peu lié à l'animation. Je pense que c'est un des pouvoirs en fait de l'animation, qui est principalement en noir et blanc dans ce film-là. Ça permet d'instaurer une ambiance lourde et grave sans forcément avoir besoin de la nommer ou d'en faire trop. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire dans les films classiques, on va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment ce que j'ai bien aimé dans ce film-là. Au niveau du scénario, je noterai juste pour ma part un petit flottement au moment de l'exil de Marjane à Vienne. J'ai trouvé qu'il y avait un changement de rythme qui, moi, m'a perdu pendant quelques minutes. Maintenant, sincèrement, ça n'a pas eu un ressenti sur mon ressenti global du film.
De mon côté, je partage un peu ce que tu dis et oui, en fait, je partage complètement ce que tu dis. Et c'est marrant parce que justement, dans l'interview de Émilie et Susanna, il y avait une question qui disait qu'est-ce que l'animé apporte de plus que les films. Et on avait justement ce côté très poétique, cette tension, cette chose qui visuellement est compliquée à faire dans un film et qui est plus simple à l'animé. Donc ça fait totalement écho à ce que tu viens de dire. Et je partage tout à fait ça. Et pour le coup, l'animation de Persepolis est quand même très 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 jolie. Moi, les trucs en noir et blanc, j'ai un peu du mal au niveau de lecture. Je trouve que c'est un peu compliqué pour mes yeux à lire. C'est totalement personnel, attention. Mm-hmm. Mais là, j'ai eu aucun souci. L'animation, elle est vraiment superbe. J'ai adoré.
Peut-être que ça vient du fait que les dessins, alors j'aurais pas les termes techniques, mais si tu veux, sont plutôt gros. Il n'y a pas de dessin avec des petits traits. Donc en fait, je pense que c'est assez parlant, assez frappant, assez marquant en fait. Je pense que ça vient peut-être de là.
C'est totalement possible. Ouais, ce truc un peu à la Foot de rue. Je reviens toujours à Foot de rue, mais des très gros traits. Voilà. Bah regardez Foot de rue. L'ancienne génération. Ne regardez pas le nouveau. Regardez l'ancien. Attention. Non, mais oui. Et du coup, niveau scénario, pour en revenir là-dessus, puisque tu en parlais, j'ai ressenti un peu ce passage à vide. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'était important aussi pour elle de le dire, de le citer, parce que c'était son adolescence, c'est quand même un moment où tu te construis, qui est fort et tout ça. Donc, ça aurait pas été là, je pense que ça aurait manqué.
Complètement, et même sur la retranscription du ressenti et sur la projection qu'on peut avoir en tant que spectateur ou spectatrice, En France, il y a très peu de gens qui ont vécu ce qu'elle a vécu, donc forcément c'est plus compliqué. Et ce petit flottement permet peut-être aussi de ressentir le côté perdu. En fait, elle était adolescente. Moi, je l'ai pas compris tout de suite dans le film. Elle avait 12-13 ans au moment où ça s'est passé. Partir de son pays toute seule dans un pays étranger, c'est compliqué. Voilà.
Force aussi du film, c'est justement que c'est cette histoire vraie là qui est poignante. En fait, ouais. On voit un exil. Elle essaye de revenir, mais c'est tellement pas possible sous le régime dans lequel est son pays qu'elle est obligée de repartir. Et les deux fois, c'est contre son gré. Donc
c'est ça.
Donc elle fuit quoi.
Je pense que tu vois l'animé et même les films, j'allais dire en général, permettent de prendre conscience de choses qu'on ne vit pas et voilà de comprendre ce qui se passe derrière une guerre, derrière un exil, derrière des droits humains qui réduisent. Et puis, même si le film a été fait en 2007, et ben pour tout ça, je pense que c'est important qu'il ait pu être ressorti cette année, grâce au festival, hein, pour le coup, parce que forcément, ça fait écho avec certains reculs des droits qui se passent en France, avec des montées politiques pas très jolies et pas très chouettes. Donc voilà.
Tout à fait, je suis d'accord. C'est un film qui peut totalement. Enfin, on dirait pas qu'il a 20 ans, en fait.
Non.
Clairement pas, hein, que ce soit dans l'animation ou dans le propos même. C'est pas du tout le cas. Si vous avez envie de voir d'autres films en ressortie comme Persepolis, n'hésitez pas à aller au Pathé et sur la page Instagram du Pathé Angers. Le festival de l'animé, c'est jusqu'au 22 octobre. Il y a beaucoup de films en ressortie, n'hésitez pas à vous renseigner. Et Radio G couvrira l'événement. Il y aura plusieurs interviews d'invités et vous pouvez tout retrouver sur radio-g.fr.
Et ça, c'est chouette.
Nous arrivons au terme de cette première émission de Clap & Chat. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cette émission vous aura plu. Merci à Laure, merci à Kevin d'avoir partagé ce moment avec moi. Et puisque c'est mon émission, je voudrais dire quelque chose. Nous sommes le 1er octobre et c'est l'anniversaire de Kevin. Et du coup, je voudrais souhaiter un très joyeux anniversaire à Kevin.
Joyeux anniversaire, Kevin.
Merci. Et au passage, le 1er octobre, c'est aussi l'anniversaire de mon papa. Et j'en profite aussi pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Bisous mon papa. Merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Clap & Chat. Et ce sera toujours sur Radio G 101.5 FM.
Et juste quand même, merci à toi Ninon. Merci beaucoup pour cette belle émission.
Merci, j'espère que ça vous plaira. J'espère que... Trop bien, moi je suis trop contente de faire ça avec vous. Donc sur Radio G, dans 15 jours, 101.5 FM. Et si en attendant vous êtes trop impatient, vous pouvez nous retrouver en podcast sur radio-g.fr. En attendant, laissez-vous embarquer par de belles histoires et vivez l'émotion sur grand écran.
Radio G 101.5 FM.